Engagé, le podcast du collectif écologiste et citoyen en Allemagne du Sud.
Réalisé par Oriane Petit.
Pour la petite histoire, c'était un légionnaire dans un certain brouillard. C'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué en fait.
Aujourd'hui, j'interview Bérangère Pouchin, ou plutôt Beb, qui est cuisinière à Freiburg. Avant de s'installer en Allemagne, elle a beaucoup voyagé et l'Allemagne, ça n'était pas vraiment son pays de prédilection. Elle nous raconte son engagement contre le gaspillage alimentaire.
Je m'appelle Bérangère, j'ai 41 ans. Je suis en Allemagne depuis 7 ans et demi. Je suis arrivée pour suivre un amoureux, comme beaucoup de gens. Je suis restauratrice, j'étais déjà cuisinière en France, mais j'ai ouvert un resto ici en Allemagne. Je cuisine bio, végétarien et local, donc ici je me suis sentie de suite à l'aise. J'ai ouvert un resto il y a 4 ans. Voilà, et j'ai un enfant ici à Fribourg, c'est aussi pour lui que je suis venue. Donc mon petit garçon est franco-allemand.
D'où viens-tu ?
En France, je viens de la région de Marseille, d'Aix-en-Provence, Marseille. L'arrière-pays aixois. Le dernier endroit où j'ai vécu, ça c'est un petit village qui s'appelait Vernègue. Et puis après, j'ai pas mal voyagé.
Est-ce que l'Allemagne a eu une place dans ton enfance ?
Absolument pas. L'Allemagne, ça me tombait dessus. J'avais beaucoup de relations avec l'Italie et avec l'Espagne, de par mes origines. Et quelque part, comme on dit chez nous, pour moi, au-dessus d'Avignon, c'était le Grand Nord. J'étais un peu chauvine, on va dire. Et puis finalement, ça a été comme une révélation. L'Allemagne, puis spécialement Fribourg, je pense que j'ai eu de la chance.
Comment s'est passée ton arrivée en Allemagne ?
Pour la petite histoire, c'était un légionnaire. Quand il a fini son contrat avec la Légion étrangère en France, il a voulu rentrer en Allemagne. Il a cherché du travail, il l'a trouvé à Fribourg. Lui-même était de München, de Munich. Il parlait très bien français. Ça a été même un handicap pour moi au début, parce que du fait qu'on connaissait tous les deux personnes, c'était pas évident, parce que du coup, on avait tendance naturellement à se recroqueviller l'un sur l'autre, surtout que j'étais enceinte. Et du coup, ça a été un gros frein à mon intégration. Oui, j'ai bien mis 4 ans à commencer à apprendre la langue. À mon 7e mois de grossesse, je suis allée à la Volkshochschule, mais c'était trop dur. C'était trop éprouvant pour moi. La rencontre avec la langue allemande, ça a été un gros truc. Je parle couramment espagnol et anglais. J'ai appris l'espagnol en 6 mois, en vivant en Espagne. Je savais que l'allemand, ça serait dur. Mais c'est pire que ça, en fait. Notamment dans mon métier, par rapport aux formalités administratives. Et quelque part, j'ai l'impression, même après 7 ans, de toujours évoluer dans un certain brouillard. Il me manque cette reconnaissance au tac au tac, cette compréhension au tac au tac que j'ai avec la langue française, espagnole ou anglaise. Du coup, ça fait gagner en temps de réflexion. Il y a plein de choses sur lesquelles c'est vachement intéressant de réfléchir à ça. De dire, tiens, il y a un temps de réflexion. C'est bien, mais des fois c'est frustrant. Et dans mon métier d'entrepreneur, j'ai mis un temps fou pour des choses tellement anodines. Quand je vais en France, quand je rentre en France, je me dis, tout est tellement facile ici. Je trouve ça très facile pendant un mois ou deux, puis après je me dis, bon, mais quand même, les Allemands me manquent.
Comment es-tu devenue cuisinière ?
C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait, c'est très simple, je savais pas quoi faire. Alors j'ai essayé plein de choses, j'ai beaucoup voyagé et pour payer ces voyages, pour survivre en fait comme job alimentaire, j'ai toujours travaillé dans la restauration comme beaucoup de jeunes. Puis j'ai fini par me rendre compte que toutes mes tentatives de faire des formations, des études, de m'intégrer dans des entreprises dites traditionnelles se soldaient par des échecs parce qu'au final, les endroits où j'étais le mieux, c'était mes jobs, mes week-ends, mes soirées que je passais dans des restaurants. Puis un jour, quand je bossais dans une trattoria à Paris, j'étais serveuse et le cuisinier est tout simplement pas venu. Donc du coup, j'ai dû passer derrière les fourneaux, comme ça, de but en blanc. Et ça a été le plus beau service de ma vie. Du coup, je suis restée. J'ai continué un peu à voyager. Et à un moment où j'étais en Argentine, j'ai réalisé que c'était un petit peu bêta de se former en voyageant quand on avait en France un système scolaire et de formation si performant et gratuit. Du coup, je suis revenue à 27 ans pour passer mon CAP cuisine et être diplômée. Et naturellement, quand j'ai passé mon CAP, j'ai travaillé pour des restaurants traditionnels. Ça allait de la brasserie traditionnelle au restaurant gastronomique, puis à la société de catering. Et là, je me suis rendu compte que mon métier consistait quand même beaucoup à ouvrir des boîtes et des sachets, que ce n'était pas pour ça que j'avais signé. Et petit à petit, à force de rencontres et d'aventures, je me suis tournée vers la cuisine végétarienne, végane. Ça a été assez rapide, ça a pris 3 ans. Ça a pris 3-4 ans et encore quelques voyages parce qu'à cette époque en France, il n'y avait rien. Notamment, je suis partie à Londres parce que c'est là que ça se passait il y a 10 ans sur la cuisine végane. Et voilà, quand je suis rentrée de Londres, j'ai ouvert un petit traiteur bio-végane à Avignon. Et puis là, j'ai rencontré le papa de mon fils et du coup, hop, c'était reparti pour encore un voyage. Avignon, c'est superbe, mais il n'y a pas d'arbres. Les rues, elles sont petites. Il y a des crottes de chiens. Le monde se presse. C'est une cohue incessante. Il fait super chaud. Et en fait, quand je suis venue à Fribourg, 2 ans après notre arrivée, j'étais pas aigrie, mais j'étais quand même. J'avais un peu des regrets par rapport à mon restaurant, mon petit catering à Avignon. Et je lui ai dit, mais t'avais complètement raison, en fait, parce que je n'imaginais pas qu'au nord d'Avignon. il puisse y avoir des villes où le vivre ensemble soit si agréable. Et je ne regrette pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a de français dans ta manière de travailler ?
Enfin, offrir un petit café. J'offre des petits cafés à tour de bras et des petites parts de gâteau. Et les gens, ils veulent payer quand même. Je dis, mais non, mais c'est un cadeau. Personne ne le fait ici. Et les gens me disent, ben non. Je dis, mais en France, quand les gens ils viennent tous les jours dans un restaurant et qu'ils dépensent un certain montant d'argent, on leur fait des petits cadeaux. Et puis même s'ils ne le font pas d'ailleurs, des fois, juste parce que vous avez un beau sourire, je vais vous faire un petit cadeau. Alors ça, l'allemand, il ne le comprend pas. Mais en fait, du coup, au début, quand je suis arrivée dans ce restaurant, j'avais parfois des contacts compliqués avec certaines personnes parce que j'avais l'impression qu'ils faisaient la gueule. En fait, je me suis rendu compte que c'était totalement leur visage normal. Et maintenant, quand ils viennent, ils ont tout le temps des grands sourires. Et là, du coup, je me dis, ah, mais c'est cool, j'ai gagné quelque chose. Et c'est vrai que du coup, après, ma réputation, c'est un peu basé sur la convivialité française, le sourire, l'accueil. Donc, j'aime à croire que j'ai un tout petit peu transformé pendant 10 minutes par jour la vie de certaines personnes qui côtoient mon lieu grâce à une certaine idée de la culture et du partage. Et du coup, je peux dire que où qu'on soit, en fait, que ce soit dans le sud de la France, à Londres ou à Fribourg, tous les gens sont gentils et souriants. Il suffit de prendre la peine de le voir, en fait.
Quand tu es arrivée à Fribourg, as-tu cherché à rencontrer des Françaises et des Français ?
Alors justement, ça c'est compliqué. Moi, quand je suis arrivée en Allemagne, j'avais que mon compagnon qui parlait français autour de moi. Et j'ai mis des années à rencontrer des Français. Des années, vraiment. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Parce qu'au début, je ne me rendais pas compte qu'il y avait une telle communauté française. Et en fait, bizarrement, c'est depuis le début du lockdown, depuis le début de la crise du corona, que je commence à rencontrer plein de Français, comme si d'un coup je les attirais. Alors ça a commencé il y a 2 ans dans mon resto, quand il y a quelques Français qui ont commencé à venir de temps en temps. Puis petit à petit, ils ont dû en parler parce qu'il y en a eu de plus en plus. Après, j'ai des cuisiniers français qui ont postulé ici et puis j'en ai pris des cuisiniers français, j'en ai employé. Et ces derniers temps, je ne rencontre plus que des Français.
Quelle place a l'écologie dans ton travail ?
On essaye de ne rien jeter. C'est un peu une... Il me semble que ça va avec tout le reste. En fait, c'est une des... c'est un des éléments de notre éthique. On essaye de ne pas gaspiller, donc de ne pas gaspiller l'eau en essayant de manger le plus possible vegan et régional, ne pas gaspiller d'énergie en essayant de même de prendre maximum de légumes d'ici et également de partager nos restes. Déjà, on essaye de ne pas en générer et quand il y en a, on ne jette quasiment jamais parce que ça nous fait mal. On a même essayé de créer la carte du restaurant de façon à ce qu'on puisse faire des mises en place transversales et que des éléments se retrouvent dans plusieurs assiettes de façon à ce que les gens trouvent un certain choix, mais qu'en même temps, s'il y a trop de choix, ça veut dire gaspillage. Ça, de toute façon, c'est aussi ce que j'ai appris dans les restaurants traditionnels. Quand il y a plus de 4-5 plats à la carte, à moins de faire des choses surgelées, donc de sortir vraiment par portion, c'est impossible de ne pas gâcher. Qui peut prédire qu'est-ce que vont manger les gens ? Donc du coup, nous, c'est un jonglage très pointu entre choix et ne pas gaspiller. Je dois dire qu'avec le temps, on est devenu relativement expert. Pour être honnête, dans la gastronomie traditionnelle, en tout cas moi, telle que je l'ai apprise il y a un peu plus de 10 ans, cuisiner sans déchets, c'était pas du tout la priorité, on va dire. C'était vraiment pas la priorité. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, comment c'est enseigné dans les écoles hôtelières, mais souvent on nous disait que ça vaut plus le coup de jeter que de conserver. En fait, ça coûte moins cher de jeter que de se prendre la tête, entre guillemets, à conserver. Parce que conserver, ça veut dire stocker, écrire des étiquettes, trouver la place dans des frigos, dépenser l'électricité. Et on était formés à ça. Moi, j'ai été formée à jeter plutôt qu'à garder. Ça a fait partie des points qui m'ont désolidarisée, en fait, de ce que j'ai appris à l'école. J'ai gardé plein de choses, mais j'ai dû désapprendre. Et notamment ça. Donc, les gens qui arrivent chez nous aujourd'hui, ils ont cette sensibilité nécessairement, parce qu'on recherche toujours des gens qui ont une sensibilité pour le bio, le végétarien et le vegan. S'ils sont dans cette dynamique-là, en général, ils sont sensibilisés. Faut pas oublier que la plupart des gens vegan aujourd'hui, ils le sont parce qu'ils veulent économiser des ressources. Être vegan aujourd'hui, c'est essayer... Oui, il y a la cause animale, le bien-être animal, mais c'est surtout économiser les ressources. Le plus révoltant, c'est sur les catering, sur les mariages. C'est dans ce genre d'entreprise que j'ai fait le plus clair de ma carrière. Et quand une énorme entreprise, j'ai eu l'occasion de faire des catering pour plusieurs milliers de personnes. Quand une grande entreprise comme SFR, Orange, organise une soirée au stade Vélodrome et décide de nourrir 2 à 3 000 personnes en même temps, il y a une espèce de calcul qui est basé plus sur l'effet d'esbroufe, montrer l'opulence, plutôt que de calculer vraiment qu'est-ce que les gens sont capables de manger, qu'est-ce que les gens sont vraiment capables d'ingurgiter. Est-ce que quelqu'un s'est assis et à calculer les grammages pour voir si chaque personne mange un peu de ça, est-ce que c'est faisable? Et en fait, je ne pense pas, parce que sur cet événement en particulier, je me souviens avoir vu partir des centaines de kilos de nourriture, et ça, c'est un tout petit exemple. Il y en a plein sur les mariages, sur les gros événements, notamment... Pas les événements privés, parce que dans les événements privés, les gens ont un petit peu plus conscience, mais sur les événements payés par l'entreprise, en fait, c'est un peu tout le monde et personne qui paye. Donc, on commande à bloc et puis on jette. Mais on préfère commander plus plutôt que de ne pas avoir assez. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée, que j'ai ramené dans mon restaurant. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à diminuer les portions parce que j'ai remarqué que les gens, surtout les femmes, laissaient toujours 2 cuillères à soupe dans leur assiette. Ça m'énervait et je voulais pas les forcer à manger, c'est pas du tout mon truc. Alors du coup, j'ai réduit les portions de 30% Et j'ai proposé le Nachschlag, le rab, gratuitement. De façon à ce qu'on ait une assiette de base qui soit une assiette, on va dire, médium, qui corresponde à un appétit normal d'une femme européenne qui n'a pas trop travaillé le matin, qui est, voilà. Et s'il y a un travailleur de force qui arrive ou un grand monsieur d'un mètre 90 qui a l'impression qu'il a besoin de beaucoup plus, ben, il peut en demander plus gratuitement, c'est pas grave. Mais au moins, on n'a pas jeté les deux cuillères sur 50 personnes.
As-tu remarqué des différences entre la France et l'Allemagne sur la question du gaspillage alimentaire ?
Dans ce quartier où j'habite, il y avait aussi des gens qui ramenaient leur petit pot de confiture vide et qui mettaient les deux cuillères dans le pot de confiture. J'ai vu ça aussi. J'ai vu des gens qui faisaient très attention. C'est ici que j'ai découvert un peu ce concept-là du doggy bag. En France, c'était pas du tout. Mais alors pas du tout. Puis après, quand je suis retournée en France, j'ai vu que ça avait quand même gagné. Ici, ça a été facile de faire passer cette idée de l'assiette plus petite et le rab gratuit, parce que quand même, les Allemands sont plus sensibles d'une manière générale à tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que je me sens bien ici.
Qu'est-ce qui te manque de la France ?
Le chahut, des fois, me manque un petit peu, mais globalement, la conscience environnementale, j'apprécie énormément.
Comment définirais-tu ton lien à la France ?
Alors, d'un côté, avec tous les copains français ici, la petite diaspora française, c'est « Allez la France !»« Ah, les Français, ah, on est bien français hein !» Ça mange des raclettes et des tartiflettes véganes et ça boit du vin rouge, ça fait du foie gras végan. Ah, on est quelque part, il y a une certaine fierté, en fait, par rapport à cette convivialité, par rapport à ce sens, à ce sens de la fête, à ce plaisir de la chair qui nous relie avec les Français d'ici, et donc qui quelque part me relie à la France, c'est que j'en ai quand même fait mon métier, donc ça je peux pas le nier. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression que la France, c'est comme si c'était une île qui s'éloigne. Je me sens de moins en moins connectée. Ça veut pas dire que je suis de plus en plus connectée à l'Allemagne, mais oui, ou comme un songe. Et d'ailleurs, j'ai remarqué depuis le début du confinement, j'écoute en permanence France Inter. J'ai besoin d'entendre le français en permanence. Ça me fait du bien. Tout le monde me dit, mais Bébé, mais c'est déprimant ce que t'écoutes, ces trucs sur le coronavirus, machin. C'est vrai que sur les chaînes d'information françaises, en ce moment, ça parle pas de grand-chose d'autre. Moi, au contraire, ça me détend. T'as de la chance d'avoir quitté la France au bon moment. Je sais pas s'ils le pensent vraiment, mais en tout cas, les échos que j'ai de mes amis et de ma famille, j'en ai beaucoup qui sont encore en France, il y a une espèce de ras-le-bol que je connais pas ici. Ici, je sais pas si c'est dans toute l'Allemagne pareil, mais moi, ce que j'adore à Fribourg, c'est l'adhésion et la cohésion des gens, c'est-à-dire tout le monde est super content de vivre ici et arrête pas de le dire. Et ça me fait du bien, c'est un espèce d'enthousiasme un peu à l'anglo-saxonne, positif, je dis, ah, t'as vu notre cité, comme elle est belle, comme on est bien, comme c'est beau, la Schwarzwald. Ouais, voilà, c'est ça que je veux entendre, c'est ça que je veux vivre.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle à jouer en tant que citoyenne française en Allemagne ?
J'ai plus l'impression que j'aurais un rôle à jouer en tant que chef d'entreprise femme pour la cause féminine. Je trouve ça plutôt bien d'être un chef d'entreprise étranger, j'ai l'impression d'amener quelque chose de différent, oui. Que ce soit française ou d'ailleurs, je ne sais pas si c'est parce que je suis française, je pense plutôt c'est parce que je suis novatrice ou parce que je n'avais pas d'expérience avant, je ne savais pas comment ça devait être, alors je n'ai rien fait pareil que les autres. Donc il y a toujours cet effet d'être le borgne au pays des aveugles, entre guillemets. Nul n'est prophète en son pays. Moi, je suis arrivée ici avec des idées sur le management d'entreprise, sur le fait de travailler ensemble, qui bouleverse parfois mes employés allemands, surtout mon compagnon. Mais au final, j'ai l'impression que... Ah mais non, en fait, je ne sais pas si tout le monde aime bien, parce que maintenant, j'ai plus que des employés français. Ils sont tous partis. Oups. Non. Il y a encore quelques Allemands et ils sont super contents.
Interview réalisée le 19 février 2021. Voilà, c'était Engagé, la série de podcasts du collectif écologiste et citoyen en Allemagne du Sud. À la prochaine!